Ok, faites de la place, on est là. Jackie Brown.
Bonjour et bienvenue dans l'émission de Radio Sarcelles d'abord.
Cette émission a été préparée dans le cadre d'un projet de classe.
Nous allons vous présenter les chroniqueurs.
Pourquoi pas se présenter eux-mêmes ? Bonjour, je m'appelle Soraya.
Et moi, c'est Zalifa.
Moi, c'est Colline.
Et moi, c'est Ibtissam.
Moi, c'est Fatmata.
Ah, au fait, ne nous oubliez pas, moi, c'est Rania.
Et moi, c'est Hassan. Nous sommes tous de la 4e 6 du collège Jean Lursa de Sarcelles. Débutons cette émission par la ville où nous habitons et que nous avons envie de vous faire connaître.
La famille depuis le début authentique. Je donne ça pour ma vie, c'est magnifique. Tu voudrais qu'on stoppe.
Wesh my gay, c'est Sarcelles Zoo.
Ici on est roche, tester c'est pas la peine.
Je peux pas tester.
Nous habitons et nous étudions à Sarcelles. Nous aimons cet endroit situé à proximité de Paris. Nous avons envie de vous le faire découvrir. Nous allons vous raconter l'origine et l'évolution de cette commune. Sarcelles est une commune française située dans le département du Val d'Oise, dans la région Île-de-France. Ville emblématique de la banlieue parisienne car elle a fait partie des premières villes nouvelles.
Ça vient d'où le nom de Sarcelles ?
Le nom de Sarcelles provient de l'anthroponyme gallo-romain Sarcellus en 862.
Quand l'histoire de Sarcelles a-t-elle évolué ?
C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'histoire de Sarcelles s'est accélérée. Le gouvernement voulait résoudre la crise du logement due au baby boom et au déplacement des populations, mais aussi moderniser l'habitat. C'est pourquoi il a lancé la construction de grands ensembles de logements. Pour accueillir souvent les familles venues de loin, c'était des rapatriés, des anciennes colonies françaises, des habitants des départements outre-mer, des immigrés, des réfugiés de pays d'Europe ou d'ailleurs.
Ils ne sont pas très beaux des grands ensembles.
Peut-être aujourd'hui, mais ce nouveau modèle d'habitat est inspiré des théories d'architecte du mouvement moderne, en particulier Le Corbusier. On espérait que les gens pourraient y vivre en meilleure santé et plus heureux. On imaginait même qu'une nouvelle société, plus moderne et plus égalitaire, y naîtrait. De nouveaux habitants des grands ensembles sont venus de Paris ou de sa banlieue. Ils vivaient dans un logement trop petit ou insalubre, à l'hôtel ou chez leurs parents. Ils trouvent enfin un appartement dans une nouvelle cité. Pour construire ces nouveaux grands ensembles, il fallait trouver des grands terrains. Or, il y avait encore beaucoup de surface agricole à Garges, Sarcelles et Villiers-le-Bel. Ces communes avaient l'avantage d'être proches de Paris et de ses nombreuses usines de Saint-Denis ou d'Aubervilliers. C'est pourquoi Sarcelles a été parmi les premières localités en France à accueillir une nouvelle cité.
Aujourd'hui, combien de nationalités sont représentées ?
Aujourd'hui, près de 130 nationalités sont représentées à Garges-Sarcelles et Villiers-le-Bel. Ces villes sont devenues des emblèmes de la France multiculturelle du 21e siècle.
T'es d'art ?
Ça veut dire quoi, d'art ?
Ça veut dire c'est bien, madame.
Garges-Sarcelles, la famille depuis le début authentique. Je donne ça pour ma vie, c'est magnifique. Tu voudrais qu'on stoppe, mais y'a que des comme à gueule. Ici, on est roche, tester, c'est pas la peine.
Quand apparaissent les publicités ?
Comment fonctionne une pub ?
C'est ce que nous allons vous expliquer dans notre chronique, l'histoire de la publicité.
Les premières formes de publicité apparaissent dès l'Antiquité. Les publicités sous forme de fresques vantant les mérites d'un homme politique ou des annonces de combats de gladiateurs.
Au Moyen-Âge, les ordonnances royales et annonces commerçantes sont diffusées auprès du peuple par des crieurs publics représentant ainsi la publicité de l'époque.
La Révolution française voit la naissance du marketing politique. Des affiches et des pamphlets sont typographiés ou imprimés pour faire s'étendre rapidement les textes révolutionnaires.
Poursuivons. Les publicités dans la presse sont anciennes. En 1633, Théophrase Renaudot lance une brochure en parallèle avec la Gazette, destinée aux annonces des particuliers et des marchands. Mais c'est un échec, car de nombreux corps de métier interdisent toute forme de publicité. La première affiche pour une pièce de théâtre est réalisée par Alphonse Mucha, pionnier du style Art Nouveau. En 1894, il s'agit d'une affiche publicitaire pour Gizmonta, la pièce de Sarah Bernard, jouée au théâtre de la Renaissance. Quant au cinéma, le 18 octobre 1898, l'opérateur Michel Mesbitch installe devant le boulevard de Montmartre à Paris une caméra projecteur et projette la lumière de la publicité filmée qui vante les mérites de la société Ripollin.
Enfin, portée par l'essor économique des 30 Glorieuses, la publicité connaît un fort développement quantitatif et qualitatif. Nous avons souvent besoin de publicité pour connaître un nouveau produit ou un nouveau service.
Que faites-vous quand une publicité est diffusée à la télévision ? Vous regardez, mais l'objectif n'est pas de vous informer seulement. Son objectif est de nous séduire et de nous faire croire que le produit est le meilleur.
Les stratégies publicitaires. Les publicités essaient de persuader le consommateur que son bien-être,
passe par l'achat du produit.
On vous montre des vedettes comme des stars de cinéma ou encore des sportifs célèbres. Par exemple, Tony Parker, son gars qui vante les Kinder Bueno.
Ah, j'ai la dalle. Je me ferais bien un petit Kinder Bueno. Salut, je suis la voisine qui se tape l'incruste. Je suis venu pour me taper l'incruste. Ah ouais, mais là, en fait, c'est pas trop le moment.
Non, mais je reste pas longtemps. Vous avez pas de la bouffe?
Si, j'ai un vieux gâteau tout dégueu. J'arrive pas à le finir.
Vous mangez n'importe quoi, c'est pour ça que vous gagnez jamais un match.
Ah sinon, j'ai des biscuits pour le chien.
Non, moi, je préfère le Kinder Bueno, là. Vous avez un truc à boire?
Non mais attendez, là, vous vous incrustez chez moi, vous squattez ma bouffe, vous me prenez pour un con, quoi.
Eh oh, c'est pas parce que vous êtes connu qu'il faut insulter les gens.
Ou Georges Clooney avec la pub de Nescafé.
Excusez-moi. C'est à mon tour, je crois, ou non?
Quoi?
Hein?
Excusez-moi.
Pardon?
Hein?
Quoi? Vous n'avez rien entendu à cause de la machine à café.
Oui, elle est plutôt assourdissante, n'est-ce pas?
Nespresso. What else? L'utilisation des stars dans la publicité permet au consommateur de se voir à la place de son idole. La musique a aussi son importance pour vendre le produit car elle doit être attrayante et elle utilise souvent les méthodes des clips de musique.
Dans une publicité, l'objet en question est toujours représenté le plus favorablement possible. Lorsqu'il s'agit de nourriture, le fait de manger le produit rend la personne plus qu'heureuse. Les publicités essaient de montrer un phénomène de mode qu'il faut absolument suivre.
Les publicités exploitent donc la crédulité des personnes et des enfants. En effet, les enfants manquent d'expérience, de recul et ils n'ont pas d'esprit critique. Ah, on m'a proposé de faire une publicité.
Ah bon, c'est vrai?
Bien sûr que oui, tu veux venir?
Où ça?
Bah sur le plateau de TF1.
Ah bon, oui.
Mais non, je rigole.
Tu n'es pas marrant.
Une publicité, ça coûte cher. Tu crois franchement qu'ils vont faire appel à un inconnu?
Wesh my guest, c'est Sarcelle Zou. Tu peux pas tester. Ouais.
Bonjour, je m'appelle Zakaria.
Et moi c'est Jérémy. Nous allons vous parler du buzz.
Vous avez tous en mémoire la phrase allons en mer le quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle le buzz.
Savez-vous ce qu'est un buzz? Nous allons vous l'expliquer.
Le buzz, terme anglais signifiant bourdonnement d'insectes, est une technique marketing consistant, comme le terme l'indique, à faire du bruit autour d'un événement, d'un nouveau produit ou d'une offre.
Comment fonctionne le buzz en marketing?
C'est une sorte de publicité sauvage qui passe par le consommateur et le fait devenir vecteur du message. Le schéma de diffusion est donc le bouche à oreille. Le buzz va donc promouvoir une action, un produit, un service ou un événement.
Le buzz s'inscrit dans une stratégie et tente d'utiliser les modes de diffusion novateurs. Initialement, à budget modeste, le lancement d'un buzz demande de plus en plus de création. Enfin, le buzz repose sur un principe de surprise, puisque les moyens utilisés doivent être sans cesse renouvelés pour faire une sensation et donc faire parler. Qu'est-ce qui a favorisé l'apparition du buzz?
Le terme de buzz a connu un essor marketing considérable depuis l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'appuie surtout sur les réseaux tels que Facebook, Twitter, YouTube ou Dailymotion. Quelles sont les limites du genre?
Le mode de diffusion est non contrôlé. Les consommateurs prennent part au message. Et comme souvent dans le cas d'une rumeur, peuvent le modifier, le détourner contre le produit ou l'entreprise. De même, les entreprises utilisent le buzz comme moyen d'amplifier une annonce. Le buzz peut connaître différents modes de succès ou d'échec. Le buzz n'est qu'une action parmi d'autres, car le risque fréquent est d'étouffer la créativité ou la diffusion par une présence trop forte.
Voici quelques exemples de buzz que vous connaissez certainement.
Vous avez certainement vu le Harlem Shake. C'est un phénomène venu du Japon grâce à 4 hommes qui ont posté sur YouTube une vidéo d'eux en train de se déhancher dans les costumes improbables, sur la musique d'un DJ new-yorkais. À l'échec, cette vidéo a été vue plus de 50 millions de fois.
Difficile d'être passé à côté du phénomène Nabila. La popularité de Nabila a explosé grâce à une toute petite phrase pressée dans les anges de la télé-réalité 5. Non mais allô quoi, une séquence qui est partie d'une absence de shampoing, qui a vite fait le tour du net en France et a été parodiée encore et encore, y compris par Nabila elle-même.
Après leur corée de folie en 2011 en roller, les bébés Evian étaient de retour en 2013 avec une nouvelle vidéo buzz. intitulé Baby on Me. Ce nouveau spot de la marque française, rythmé par un remix du titre Here Come the Hostopper, remettait en scène des adultes face à une vitrine de magasin dans la rue, qui reflétait leur mi-mi-moi baby. Et quand l'adulte se trémoussait, sa version baby suivait le rythme. So fun.
Le gentil Stromae a en effet le buzz en mai dernier. Motif, on l'avait vu déambuler complètement ivre dans les rues de Bruxelles. En fait, c'était un gros coup de pub puisque le chanteur belge tournait en effet le clip de son hit formidable en caméra cachée. Un tournage en douce qui a donné un clip plus vrai que nature, dans lequel même les agents de sécurité ont fait une petite apparition.
C'est tout pour le buzz.
Put your hands in the air,
Oh nana, look what you done started. Oh nana, why you gotta act so naughty? Oh nana, I'm about to spend all this cash. Oh nana, if you keep shaking that. Oh na na na,
put your hands in the air if you're loving tonight.
Oh na na na.
Keep your hands in the air if you're spending the night.
Oh na na na, oh na 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 na.
Everybody say it like.
Oh na na na, oh na 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 na.
Everybody say it.
Baby, I'm the one you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh yeah, I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh yeah. Baby, when you ready, tell her where you get the check. Girl, I know you ready, I ain't even gotta check. You been through the worst, let me show you the best. You know I'ma get you right, girl, them boys to the left, like.
Oh na-na, look what you done started. Oh na-na, why you gotta act so naughty? Na-na, I'm about to spend all this cash. Oh, na-na, if you keep shaking that. Oh, na-na-na,
put your hands in the air if you're loving tonight.
Oh, na-na-na,
keep your hands in the air if you're spending the night.
Oh, na-na-na, oh, na-na-na-na-na-na-na.
Everybody say it like.
Oh, na-na-na, oh, na-na-na-na-na-na-na.
Everybody say it.
To celebrate, yeah. You the one they never had, yeah. Oh yeah, all the problems you done had, yeah. Leave them broke fellas in the past, yeah. Oh yeah,
girl, you had good, but I could give you better. I'll have you thinking about forever. I'm excited.
Oh na na na, look what you done started.
Look what you done started.
Oh na na,
oh na na,
why you gotta act so naughty? About to spend all this cash. Oh na na
na na,
if you keep shaking that.
Oh,
oh na na na,
put your hands in the air if you're loving
if you're
tonight.
Loving the night.
Oh na na na,
keep your hands in the air if you're spending the night.
Oh na na na, oh na 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 na.
Everybody say it like.
Oh na na na, oh na 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 na.
Lucky night, when we leave this party, you gon' love me tonight.
Everybody say,
you feeling lucky tonight,
girl.
When we leave this party, you gon' love me tonight.
Oh, nah, nah,
nah. Put your hands in the air if you're loving tonight.
Oh, nah, nah, nah.
Keep your hands in the air if you're spending the night.
Quel est ton sport préféré? Est-ce que tu le pratiques?
Mon sport préféré, c'est le football. Et toi, Ryan?
Moi, c'est la boxe thaï. Et toi, Colin?
Moi, c'est le rugby. Tiens, Ibtissem, tu joues au rugby, toi?
Pas du tout. C'est pas un sport de filles.
Bah si, vu que je le pratique.
Ah bon?
Si, écoute.
Kamate, kamate, kaora, kaora.
Reconnaissez-vous cette musique? Savez-vous de quel pays vient le rugby? De quel sport est-il dérivé? Pouvez-vous citer une grande équipe de rugby?
C'est ce que nous allons vous expliquer dans notre chronique, Colin et moi-même, Ibtissem. Le rugby date de l'Antiquité. Les plus anciennes balles conservées à ce jour sont égyptiennes.
Officiellement, le rugby est né en 1823, celui que l'on connaît actuellement ou à peu près. Le rugby a été pratiqué par un étudiant de 16 ans, William Webb Ellis, sur le terrain d'une petite ville nommée Rugby, située entre Oxford et Cambridge.
Le football de rugby est né. Les premières règles sont établies dans les années 1840 et le sport s'étend dans le Royaume-Uni dans les décennies qui suivent.
Le football et le rugby n'adoptent toutefois leurs différences essentielles entre jeu au pied et à la main qu'en 1863. Les fédérations du rugby feront évoluer les règles vers celles que l'on suit aujourd'hui. Quel sport pratiquait-on en France ?
En France, on pratiquait la soule, un sport qui ressemblait plus au long. Le rugby revient en France par le biais de l'Angleterre en 1872.
De nombreux clubs ne pratiquaient pas au départ le football, rugby anglais, mais la barrette. Une variante moins violente qui finira pourtant par disparaître.
L'histoire du rugby français est au départ une affaire principalement parisienne, mais l'ouverture du championnat de France à tous les clubs de l'Hexagone en 1899 permettra l'essor des clubs de province et particulièrement du sud-ouest.
La France aura une équipe nationale en 1906 et la Fédération française du rugby sera créée en 1921 avec pour but d'organiser et de développer le sport en France. Pouvez-vous nous citer 5 valeurs du rugby ?
Le respect,
esprit d'équipe, motivation.
Oui, comme vous le pensez, les 5 valeurs prioritaires sont
le respect,
le courage,
la coopération,
l'échange, l'esprit d'équipe
et pour finir, l'intelligence tactique. Le rugby n'est pas qu'un sport, c'est un mode de vie.
Depuis quelques années, de grandes entreprises essaient de créer un esprit de groupe de façon à être plus productive et mettre à disposition des employés, des salles de sport pour qu'ils soient plus en forme et plus créatifs.
En France, c'est un nouvel état d'esprit. Bon, Ipsem, je te laisse. J'ai un entraînement de rugby qui m'attend.
Ok, y a pas de problème.
Ah tiens, tu voudrais bien venir me regarder, m'entraîner ?
Avec plaisir.
Super, on y va ?
Let's go.
Ah, je reconnais cette musique. C'est pas là qu'il y aura la prochaine Coupe du Monde de foot ?
Justement, je voulais faire un voyage. Vous êtes d'accord ?
Oui, on est d'accord.
Juste pour voir le foot.
Alors partons pour le Brésil.
Quelle est la capitale du Brésil ? D'où vient le Brésil ? Quelle est la langue parlée ? Est-ce un grand pays ? Vous le savez, nous allons vous le dire tout de suite.
La capitale du Brésil est Brasília. La langue parlée est le portugais. C'est le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Amérique latine. Le Brésil est un pays immense, divers et très coloré.
Nous avons choisi de vous parler de la musique au Brésil. Écoutez, c'est le batucada.
Dans les carnavals brésiliens, elle accompagne les danseurs et les chars. C'est un genre de musique avec des percussions traditionnelles du Brésil. On entend 6 instruments. Le lapito.
C'est un sifflet avec 2 ouvertures.
La gogo.
C'est un instrument d'origine africaine constitué d'une ou plusieurs cloches reliées entre elles. Une tige en métal frappée au moyen d'une baguette.
Le surdo.
Le gros tambour qui marque le temps.
Le repinique.
C'est un tambour médium généralement jouable par le chef du batucada.
Le tambourin.
C'est le tambour le plus petit et le plus fin.
Le chocalo.
C'est un bâton avec des cymbalettes.
La musique d'Amérique du Sud a pour origine 3 cultures. L'autochtone, qui vient des Amérindiens. Européenne, depuis les découvertes du monde par Christophe Colomb. Africaine, depuis la venue des esclaves au XVIe siècle sur le territoire. Alors je m'y connais en musique. Et toi, tu connais en danse ?
Ouais, c'est facile.
Bah, parle-moi de la samba.
C'est une danse sensuelle, ça se danse en couple. Les femmes sont plutôt en robe courte avec des couleurs vert ou rouge et blanc.
D'accord, tu t'y connais bien en samba, mais tu t'y connais en capoeira ?
Ok, oui.
Parle-moi-en.
La capoeira est un art martial, elle est née à Bahia dans les prisons où étaient enfermés les esclaves avant d'être remis à leur maître. C'est une danse et un sport. En général, c'est 2 garçons habillés en blanc au milieu d'un cercle. Ils font tourner leurs pieds au-dessus du visage de l'adversaire en donnant l'impression de donner des coups de griffe avec leurs mains. Ah, alors vous jouez ?
Ouais, j'en ai plus les mots.
Nous allons maintenant vous parler du carnaval à Rio de Janeiro.
Le carnaval est la fête nationale la plus populaire au Brésil et à Rio de Janeiro en particulier. Il a lieu tous les ans entre l'épiphanie et le carême, durant les 4 jours qui précèdent le mercredi des cendres. Il s'agit de l'événement touristique le plus important de la municipalité de Rio. L'origine du carnaval brésilien et européenne à travers l'entrudo, du latin introduis qui signifie entrée. Qui marquait l'entrée dans le carême, l'entrudo consiste à jeter de l'eau sur une autre personne, pratique remplacés aujourd'hui par des lancers de confettis.
Enfin, je vais vous parler de la feijoada et vous donner la recette si vous voulez la faire. La feijoada est un plat très populaire au Portugal et au Brésil à base de haricots noirs, feijão, haricots en portugais, différentes viandes de bœuf et de porc accompagné de riz avec bien sûr des épices et du piment. Cette recette date de l'époque coloniale et des esclaves.
Bon appétit!
Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs, merci au collège Jean-Lussat de nous avoir donné la possibilité de jouer aux apprentis journalisme.
Nous voudrions remercier Madame Grisard, Monsieur Lali et Madame Trappler qui ont cru en nous.
À bientôt sur Sarcelles d'abord.
Bye!